plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, Marek à l'antenne de CFM. Gros bisous à toutes les filles que je connais et que je connaîtrai sûrement. Petit clin d'œil aux garçons. Aujourd'hui au programme, dossier OVNI, le cas Stephen Michalak, un classique du genre. Puis nous parlerons de psychanalyse avec le scarabée de Jung et finalement d'expérience aux frontières de la mort. Dans les grands classiques du témoignage d'OVNI, nous allons parler aujourd'hui d'une rencontre peut-être un peu trop rapprochée de Stephen Michalak. C'est un grand classique du genre. Une rencontre digne, vous savez, de la série des envahisseurs. Voilà l'histoire. C'est une journée idéale pour Stephen Michalak, mécanicien de profession qui a décidé de passer son week-end dans le parc de Whiteshell pour rechercher des métaux précieux et des pierres rares. Il vient de passer la nuit dans un petit motel en aval de la montagne du lac Falcon. Ce parc s'étend, à perte de vue, dans une nature sauvage, en grande partie inhabitée, et connue pour ses différents gisements de minerais. Il a quitté son hôtel vers 5h30 avec tout son équipement de randonnée et son sac à dos. Il est seul dans cette montagne et se déplace de rocher en rocher depuis quelques heures, lorsque vers 12h15, alors qu'il examine une veine de quartz au bord d'une rivière, il aperçoit deux objets rouges métalliques de forme discoïdale d'environ 1,50 m de diamètre qui flottent à quelques mètres du sol au-dessus de lui. Michalak n'a jamais rien vu de pareil. Il arrête de marteler la pierre et concentre toute son attention sur les deux formes qu'il perçoit désormais comme ovales et d'environ 10 mètres de diamètre sur 3,6 mètres de hauteur. Les ovnis se rapprochent de plus en plus de lui et l'un d'entre eux atterrit à environ 50 mètres de sa position, tandis que l'autre prend de l'altitude et disparaît derrière quelques arbres. Incroyable. Michalak s'arrête immédiatement de marteler la pierre, il relève ses lunettes de protection et se met debout pour observer attentivement la grande plateforme rocheuse où vient d'atterrir l'engin. Le second objet, qui a plané un bref moment au loin, est maintenant parti, tout en changeant de couleur du rouge à l'orange pendant qu'il volait vers l'ouest. Concentrant son attention sur l'objet posé au sol, Michalak remarque que celui-ci change aussi de couleur pour passer du rouge au gris de l'acier inoxydable chaud entouré par une lueur dorée. Tandis qu'il observe l'objet, il ne réalise pas encore ce qui est en train de lui arriver, seul, au milieu de nulle part. Pensant qu'il ne peut s'agir que d'un appareil expérimental militaire, Michalak essaie d'appeler en anglais, en allemand, ainsi qu'en français, en direction de l'ovni fumant qui vient de se poser face à lui. Mais il ne reçoit aucune réponse. Le premier effet de surprise étant passé, il s'approche de l'objet et inspecte la trappe qui vient de s'ouvrir dans l'appareil. Cette porte est assez petite, environ 60 cm sur 1 mètre. Une conversation à peine audible lui parvient à travers l'ouverture. Michalak s'interroge, cet engin est-il un véhicule expérimental américain? Il lance alors à destination des éventuels occupants « Ok les Yankees, vous avez des ennuis? Sortez donc et nous verrons ce que nous pouvons faire à ce sujet. » Mais il n'obtient aucune réponse. Il n'a réussi qu'à faire cesser le bruit de la conversation à l'intérieur de l'habitacle. Michalak, de plus en plus curieux et prenant de plus en plus confiance, pose une nouvelle question en direction de l'ouverture. « Vous parlez russe ?» Mais toujours pas de réponse. Il renouvelle cette question en allemand, italien, français, ukrainien, puis de nouveau en anglais. Sa curiosité l'a tellement emporté qu'il s'est dangereusement rapproché de l'engin qu'il peut maintenant toucher de la main. À travers la trappe, il commence à observer l'intérieur de l'engin, poussant sa tête dans l'ouverture. Il y aperçoit d'étranges motifs colorés qui semblent varier d'intensité et de place dans le fond de l'engin où règne une profonde obscurité. Il y a aussi une sorte de labyrinthe de lumière, ce qui semble être un panneau, et des rangées de lumière horizontale et diagonale. Il y a aussi un faisceau de LED clignotante, dans un ordre aléatoire, comme sur un ordinateur. Michalak en est certain. Il a devant lui quelque chose d'extraordinaire. Il aimerait bien en savoir plus. Mais au moment où il amorce quelques pas de plus en direction de la trappe, elle est brusquement obturée par trois panneaux coulissants qui en restreignent brutalement l'entrée. Les panneaux ont glissé au-dessus de l'ouverture, la scellant comme un obturateur d'appareil photo. Michalak les observe en détail et il ne peut résister à l'envie de poser sa main sur la surface de ces panneaux coulissants pour en ressentir la texture et les examiner de plus près. Il a justement dans son sac à dos tout son attirail de géologue et une épaisse paire de gants qu'il s'empresse d'enfiler pour poser sa main dessus. Il a fait glisser sur la surface en acier de l'engin. Il ne sent aucun rivet, ligne de soudure ou joint. La surface est entièrement polie, comme celle d'un miroir teinté sur lequel la lumière se reflète en libérant parfois des éclairs lumineux argentés à partir de la réflexion des rayons du soleil. Michalak sent qu'il vit un événement extraordinaire. Mais soudain, il ressent la chaleur de la carlingue traverser les cuirs de ses gants et il retire sa main juste avant que la toile de ses gants ne se mette à fondre complètement. Le mal est fait. Cette poussée subite de chaleur a été si violente qu'elle a brûlé Michalak dans la paume de la main. Il commence à reculer car il sent qu'il se passe quelque chose. L'engin vient de commencer à tourner sur lui-même et l'ouverture qui était face à lui a changé de position. Il fait maintenant face à une grille qui ressemble à une sortie d'échappement ou à un radiateur de ce qui pourrait être un moteur. Il avait déjà remarqué cette grille d'environ 30 cm de côté qui était auparavant sur sa gauche et instinctivement il avait évité de s'en approcher. Elle était désormais face à lui et il pouvait détailler toute une série de trous ronds et réguliers d'environ 1 cm chacun. Michalak sent que la température ambiante vient de monter subitement, mais il est trop tard pour s'enfuir. Et au même instant, un souffle brûlant s'échappe des trous de la grille sous forme d'un jet de vapeur puissant qui embrase immédiatement sa chemise et son maillot de corps. Michalak hurle de douleur. Il arrache ses vêtements brûlants pour les jeter à terre, tout en observant l'ovni qui s'envole à grande vitesse pour disparaître derrière les arbres. Il ramasse alors sa chemise et sa casquette, qu'il avait jetée à terre quand elles ont pris feu, et constate que ses brûlures sur la poitrine ont la forme de la grille d'où s'est échappé le jet de vapeur brûlant. Il constate également que l'aiguille de sa boussole tourne de manière incohérente. Mais quelques minutes plus tard, elle finit par retrouver la direction du nord magnétique. Légèrement choqué, mais en pleine possession de ses moyens, il met à profit toute la demi-heure qui suit pour faire un croquis de l'objet et noter diverses caractéristiques de l'engin dont le souvenir est encore très vivace. Il dessine alors sa coupole ou son dôme supérieur et les vagues d'air chaud qu'il a vu rayonner autour de l'engin quelques instants avant son départ. Petite note, le tout était accompagné d'une odeur de soufre et d'un sifflement qui ressemblait à celui d'un moteur électrique rapide, comme si de l'air était aspiré ou expulsé de la grille. Mais pendant que Michalak continue de chercher aux alentours les traces éventuellement de l'engin au sol, la douleur devient pressante et il commence à se sentir très nauséeux. De plus en plus faible et étourdi, il commence à vomir et rassemble ses dernières forces pour entrer au motel. Sur le chemin du retour, Il vomit plusieurs fois et doit s'arrêter régulièrement pour reprendre des forces. Il finit par croiser la route d'une voiture de police à laquelle il fait signe de s'arrêter. L'officier de police s'arrête à son niveau et commence à l'écouter, avant de l'interrompre pour lui dire « Désolé, mais j'ai d'autres choses à faire ». Puis il s'en va au volant de son véhicule. Michalak rentre donc seul et à pied jusqu'à son motel, inquiet de la contamination à laquelle il a pu être exposé au départ de l'engin. Vers 16 heures, il fait tout ce qu'il peut pour trouver un médecin qui pourra l'examiner et calmer la douleur qui s'est considérablement aggravée. Mais le docteur le plus proche est à 70 km à l'est de Falcon Lake. Il veut également prévenir au plus vite la population du secteur qu'il pourrait y avoir un danger pour les visiteurs du parc. Il appelle donc le bureau local des nouvelles de Winnipeg Tribune et il en profite pour leur demander d'envoyer quelqu'un pour le prendre et l'amener chez un docteur qui pourra écouter son histoire sur le chemin de l'hôpital. Mais le département des nouvelles est à court de personnel et semble peu disposé à satisfaire sa demande. Il est finalement obligé de prendre un autobus vers 20h45 pour se rendre chez le médecin de Winnipeg où il arrive vers 22h15, mettant fin à cette folle et rude journée. S'en suivent des effets physiologiques. Pendant les semaines suivantes, Michalak souffre de nausées, de vomissements, de diarrhées, de maux de tête et d'évanouissement. Il subit également une forte perte de poids tout au long des 2 années à venir. Petite note, au total, Michalak a été examiné par plus d'une douzaine de médecins aux États-Unis et au Canada, et sur le site de sa rencontre, des investigations ont été menées par des membres de la police montée royale canadienne, la force aérienne royale et de nombreux services gouvernementaux. Les ufologues n'ont pas été en reste et dès qu'ils ont été mis au courant de l'affaire, le comité Condon de l'Université du Colorado a mené une enquête indépendante. La PRO, Organisation de recherche sur les phénomènes aériens, le CAPRO, c'est-à-dire la PRO canadien, le département fédéral des mines et des ressources naturelles et l'établissement de recherche nucléaire de Whiteshell se sont également impliqués dans cette enquête. Sur le plan médical, Michalak a été examiné à l'Institut du cancer du Manitoba, à la clinique Mayo dans le Minnesota et dans une foule d'autres établissements de santé. Ce qui fait du cas de Falcon Lake l'un des plus étudiés et des mieux documentés dans le domaine ufologique. À l'hôpital de Winnipeg, où il est soigné le soir même pour ses brûlures, on constate que certaines parties de la poitrine de Michalak sont brûlées au deuxième degré, selon le pattern d'un damier au bord très net. Quand le docteur examine Michalak, il lui déclare qu'il a été frappé par l'échappement sortant d'un avion. Petite note, il expliquera plus tard qu'il n'a pas parlé de l'OVNI au docteur parce qu'il n'était pas assez à l'aise en anglais pour paraître crédible et faire comprendre au médecin la fantastique rencontre qu'il venait de faire. Michalak était fatigué. Il voulait rentrer chez lui le plus vite possible. Après une bonne dose de sédatifs et le nettoyage de ses blessures, Michalak rentre enfin chez lui. Mais le matin suivant, les nausées sont toujours là et sa famille remarque sur lui une forte odeur corporelle et une haleine extrêmement mauvaise. Il ne peut conserver aucune nourriture, mais il n'a de toute façon pas faim. Dans les semaines qui suivent, il perd 10 kilos et souffre de divers troubles digestifs similaires à ceux résultant d'une exposition aux radiations. Et pendant les 18 mois qui suivent, de nombreuses cloques et enflures se créent autour des brûlures. Son propre médecin, le docteur Oatway, le trouve dépressif, troublé, apathique, et il donne à Michalak l'adresse d'un dermatologue qui lui prescrira une pommade antibactérienne pour les brûlures. Avec le temps, Michalak se remet progressivement, mais il perd régulièrement du poids et continue à vomir de temps en temps. Cependant, son appétit revient lentement à la normale. Environ 2 semaines après la rencontre avec l'OVNI, Michalak est accompagné par un ufologue à l'établissement de recherche nucléaire de Whiteshell, où il passe un examen entier du corps pour savoir s'il a été soumis à une source radioactive. Mais on ne découvre pas un niveau d'exposition à la radiation supérieure à celui de la normale, bien qu'une légère baisse de ses lymphocytes sanguins, moins 16 à moins 25%, soit remarquée dans son sang. Mais après 4 semaines, le décompte des globules blancs et des plaquettes sanguines était de nouveau à un niveau normal. La nausée et les vomissements suivis de diarrhée et de perte de poids est une image classique d'irradiation grave de tout le corps exposé à des rayons X ou gamma. J'estime que M. Michalak a reçu de l'ordre de 100 à 200 rtengs. Il est très chanceux que cette dose de rayonnement ait seulement duré très peu de temps, sinon il aurait certainement reçu une dose mortelle. Voilà ce que déclarait le docteur Horace Dudley. S'ensuit une enquête maintenant sur le terrain. Évidemment. À la suite du témoignage de Michalak, plusieurs enquêteurs décident de se rendre sur les lieux de l'observation pour essayer d'y découvrir des traces de l'engin. Petite note, le rapport le plus scientifique et le plus complet sur le cas a été publié par le comité Condon. Malheureusement, quand Michalak essaie de conduire la force aérienne royale canadienne sur le site le 4 juin 1967, il n'est pas capable de retrouver le lieu exact de sa rencontre avec l'OVNI, rétorquant que la nature avait beaucoup changé et que l'aspect de la forêt était très différent de ce qu'il était au moment où il était venu. La Force aérienne royale canadienne tente alors de retrouver le site avec un hélicoptère, mais sans plus de réussite. « On aurait dit que l'endroit avait disparu de la face de la Terre », a déclaré Michalak. Tous ceux qui ont participé à ces investigations ont été très contrariés par son incapacité à retrouver l'emplacement de l'OVNI. Et ce, seulement 2 semaines après l'incident. C'est le début d'une mise en doute de son histoire par le comité Condon et l'Air Force canadienne. L'Air Force, de son côté, a mené des investigations parallèles, mais en secret. Cette première série de recherches conjointes entre les organismes militaires et la police ne permet pas, malgré un équipement de détection sophistiqué, de trouver la moindre preuve du récit de Michalak. Michalak se méfie alors de plus en plus des autorités militaires, mais elles insistent une seconde fois pour qu'il retourne sur le terrain à la recherche du site 2 mois après les faits. Et ce choix s'avère payant, car approximativement à 45 minutes à pied du lieu des premières recherches, il tombe enfin sur ce qui pourrait être le bon secteur. Les investigateurs découvrent alors un cercle où l'herbe est partiellement brûlée. Et ils prélèvent des échantillons de terre, de roches et de végétation. Ils prennent également de nombreuses photographies. Les analyses des échantillons réalisées par le RCMP, Royal Canadian Mounted Police, montre des mesures de radiation sensiblement élevées. Sur leur recommandation, il est envisagé de mettre un cordon de sécurité autour du secteur du fait d'un risque sanitaire possible. Après analyse, quelques roches sont intensivement altérées et dégagent une légère radioactivité. Le lichen et la mousse ont subi un souffle et une chaleur inexplicables. Bref, de quoi confirmer que quelque chose s'est bien produit là. La crédibilité de l'histoire de Michalak était enfin confirmé sur le terrain. Parmi les échantillons relevés sur le terrain, on retrouve sous une couche de lichen dans la fissure de la roche 2 petites barres de métal en forme de W, de chacune environ 10 cm de long et plusieurs petits morceaux de forme irrégulière. Un certain nombre d'établissements spécialisés effectuent alors des analyses sur ces morceaux en métal. Et il note que cet alliage particulier est constitué d'argent sous forme de minces feuilles qui ont été tordues, froissées et en partie fondues ensemble. Ces échantillons ne sont pas radioactifs à l'intérieur, mais ils sont recouverts en surface d'un matériel radioactif adhérent qui se compose de minerais écrasés. Pour Brian Cannon, enquêteur civil pour le CAPRO, c'est-à-dire l'Organisation de recherche sur les phénomènes aériens canadiens, c'était comme si les barres en métal étaient indépendantes de l'expérience de Michalak. Cette radioactivité était-elle due à la présence d'uranium naturel qui existe dans la région ou à la présence de l'OVNI? Une autre analyse d'un échantillon de sol a été faite grâce à la spectroscopie par Riongama en 1994 par l'association Uforum de Greg Kennedy à Montréal. Elle a montré que le césium et quatre radionucléides détectés étaient probablement dus à des retombées radioactives d'essais d'armes nucléaires. Voici donc la conclusion de ce récit absolument fantastique, vous en convenez. Dès le début de l'affaire, le gouvernement canadien s'est intéressé de près au dossier. Tout au long de l'enquête, il a semblé limiter l'accès aux informations. Léo Cadieux, le ministre de la Défense de l'époque, a d'ailleurs déclaré « Ce n'est pas dans les intentions du ministère de la Défense nationale que de rendre public le rapport sur l'observation alléguée ». En 1979, des parties du rapport complet du gouvernement sont cependant révélées au public. Mais il manque les résultats de l'étude sur les vêtements brûlés de Michalak et la conclusion finale du gouvernement. En 1989, l'affaire revient sur le devant de la scène lorsque le producteur de l'émission Unsolved Mysteries sur NBC contacte Michalak pour rouvrir le dossier de Falcon Lake. Le jour de la diffusion, aucun des appels de téléspectateurs ne permet de relancer l'enquête avec de nouvelles pistes solides. Au final, on pourra dire que les enquêteurs ont émis de nombreux doutes sur l'histoire de Stephen Michalak, car ce dernier a mis un temps qui leur a paru suspect pour retrouver le site de l'observation, presque 2 mois. De plus, aucun autre témoignage n'est jamais venu pour corroborer le sien. Cependant, les plus sceptiques, dont un des enquêteurs de la police montée royale canadienne, ne sont jamais parvenus à expliquer pourquoi le site présentait des taux de radiation très importants. Eh oui. Alors certains détracteurs ont même été jusqu'à dire que Michalak avait pu s'infliger lui-même ces étranges brûlures avec une grille de barbecue et rendre le site radioactif en répandant lui-même du radium. Ouais. D'autres furent convaincus de la sincérité du témoin qui, selon eux, n'aurait eu aucun intérêt à inventer une telle histoire. Quant aux vêtements du témoin, en raison du manque d'informations communiquées par l'État sur les résultats de leur analyse, ils ne permettent pas de conclure dans un sens ou dans un autre. Michalak est décédé en 1999, à l'âge de 83 ans, emportant dans la tombe sa vérité sur l'événement du 19 mai 1967. Pendant 32 ans, il n'a jamais changé un seul détail de son histoire et il a toujours souligné qu'il n'avait jamais dit avoir vu un engin de notre monde, mais affirmé de façon réaliste qu'il n'a pas su ce que c'était et qu'il n'était pas le genre de personne à composer des contes de fées. Fin de citation. Bien sûr, chers auditeurs, je vous laisse juger devant cette histoire ufologique. Et maintenant, un petit peu de musique.
Lost in the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa. Lisa.
the door. There must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Oh, I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
Abordons maintenant une petite réflexion psychanalytique. Je vais vous parler du scarabée de Jung, vous savez, le célèbre psychanalyste. Les fans de la série Star Trek connaissent bien l'holodeck, ce système d'imagerie holographique qui permet de reconstituer n'importe quelle réalité et de la modifier à volonté, soit de l'intérieur, en s'y projetant, soit de l'extérieur, en immatérialisant ou en retirant ce qu'on souhaite. Ça, c'est la science-fiction. Le physicien William Tiller, directeur du département des sciences physiques de l'université de Stanford, y voit bien plus qu'une idée de scénariste. Pour lui, notre univers quotidien fonctionne exactement de cette manière. Le monde serait un gigantesque holodeck, suscité par l'intégration de toutes les créatures vivantes. Il dit ceci: nous l'avons créé pour être le véhicule de notre expérience, déclare-t-il, et nous avons produit ainsi parallèlement les lois qui le gouvernent. Dès que nous butons sur les limites de notre compréhension, nous avons donc toute l'attitude de modifier ces lois, avec pour conséquence que notre exploration du monde physique s'accompagne d'une pure et simple création continue de celui-ci. Fin de citation. La co-création, un concept déjà défini au 1er siècle par saint Paul. Nous aurions donc les moyens psychiques de modifier la réalité ambiante et d'améliorer ainsi en toute liberté notre destin. Pour alors, objecte avec raison les sceptiques, tout ne va pas toujours idéalement bien pour chacun d'entre nous dans le meilleur des mondes possibles. Parce que nous n'appelons pas les événements ou les rencontres avec notre seule volonté consciente. Les blocages, les actes manqués, les épreuves, les punitions que nous inflige notre inconscient, ou suivant les croyances, notre karma, nos vies antérieures, notre soumission à la volonté divine, ou au pouvoir des jeteurs du sort, modèlent notre destin avec une puissance supérieure à celle de nos désirs de surface, par essence changeants, contradictoires, influençable. D'où la nécessité d'être bien dans ses baskets pour s'assurer des jours meilleurs. Est-ce une vision naïve du monde? L'espérance est au cœur de la Bible. Le Coran est un hymne à la joie, contrairement à ce que professent les extrémistes qui ne l'ont pas lu. Le bouddhisme nous rappelle sans cesse que ce sont nos peurs qui nous créent un sort funeste. Et les taoïstes nous mettent en garde. C'est le visage triste que pique l'abeille. Le désenchantement n'est pas un péché, certes, mais c'est une faiblesse, une perte d'énergie. Pour les lamas tibétains, plus nos vies antérieures sont chargées, plus nous devons les assumer d'un cœur léger. Autrement dit, plus nos bagages sont lourds, plus nous devons tâcher de les transporter avec aisance, quitte à régler le problème au moyen de roulettes en remerciant le progrès. Car le progrès, c'est ce qui devrait nous aider à aller le mieux possible, dans notre sens. Mais il n'est souvent, hélas, comme disait Cocteau, que la répétition d'une erreur. Et si la source de tous nos échecs était justement la répétition d'une erreur de jugement? Nous considérons le désir ou la prière comme des demandes, alors que ce sont des programmes. Nous les soumettons à une réponse, à la validation d'un dieu ou d'une tierce personne, alors que leur nature et leur raison d'être sont de configurer le monde. Alors c'est une théorie que les philosophes abandonnent de plus en plus aux scientifiques avec le soutien d'un courant majeur de la psychanalyse. Oui, nous appelons à notre insu ou non les circonstances, les connexions, les partages de données. C'est une de mes rares convictions inébranlables, confirmée sans relâche par mon expérience. Nous aimantons les événements, qu'ils soient symboliques ou en attente de sens. Alors l'un des exemples les plus parlants en est le scarabée de Jung. Il est devenu l'image vivante de la coïncidence significative productrice de sens. Rappelons la genèse du dit scarabée. Une patiente du célèbre psychiatre suisse, que nous appellerons Madame X, avait une approche tellement rationaliste de la vie qu'elle était imperméable à toute forme d'analyse. Carl Gustav Jung sentait qu'elle était consciente de ses blocages, qu'elle souhaitait s'en libérer, mais refusait de l'admettre. Il se contentait donc de la laisser parler, évitant soigneusement de l'orienter par la moindre question. Après plusieurs séances de monologue insipide, Madame X en vient à parler d'un rêve qu'elle fait de plus en plus souvent. Rêve où figure un scarabée d'or. Se souvenant que, dans la mythologie égyptienne, cet insecte est lié à la notion de renaissance, Jung se demande si l'inconscient de sa patiente n'est pas en train d'annoncer sous forme symbolique l'imminence d'une renaissance psychologique. Il hésite à lui en parler. À ce moment, un bruit leur fait tourner la tête vers la fenêtre. Un gros insecte est en train de se cogner obstinément contre le carreau. Et pas n'importe quel insecte. Une cétoine dorée version européenne du scarabée d'or. C'est la première fois qu'un tel spécimen vient frapper à la vitre de Jung. Il ouvre la fenêtre, le laisse entrer, faire le tour de la pièce et repartir. Le blocage rationaliste de Madame X vole alors en éclats et grâce à une psychanalyse enfin acceptée, son processus de renaissance peut désormais s'amorcer. C'est ce que Jung nomme une synchronicité et qu'il définit en ces termes, je cite, « coïncidence temporelle de deux ou plusieurs éléments sans lien causal entre eux et possédant un sens identique ou analogue ». Comme si l'image intérieure que nous ressasse notre inconscient débordait de la psyché au moment opportun pour se manifester dans le monde extérieur, pour créer une résonance suggérant que nous sommes en phase avec notre destin, une confirmation que la route devant laquelle nous hésitons est bien celle qui nous convient. Mais dès lors qu'on exclut le hasard, on peut se demander qui a fait venir le scarabée ? L'inconscient de la patiente ou bien le désir qu'a eu le psychiatre d'accélérer sa prise de conscience. On songe dans ce cas à l'objet apparu dans la main de l'Indien Sai Baba, destiné à traduire matériellement un mot dont son interlocuteur islandais ignorait la signification. Après avoir identifié, accepté et mis à profit le signe du scarabée, Jung rencontrera à maintes reprises dans sa carrière ce genre de coïncidence significative. Il s'en ouvrira au physicien Wolfgang Pauli, notamment en référence aux expériences de Rind sur la psychokinèse, cette fameuse action de la pensée sur la matière. Il est plus vraisemblable que pensée et matière ont en fait la même propriété, lui écrit Jung, qu'elles sont toutes deux contingentes à un niveau plus profond et empiètent l'une sur l'autre sans se soucier de leur détermination causale respective. Réponse du prix Nobel de physique 1945. Les phénomènes dépendent de la personne qu'ils observent. Pauli était bien placé pour le savoir, lui qui, le premier en 1931, eut l'intuition de l'existence d'une particule fondamentale à laquelle personne ne croyait, le neutrino. Ne dit-on pas d'un chasseur de trésors qu'il est l'inventeur du butin qu'il découvre ? L'observation ou son simple désir créerait donc certains phénomènes. On retrouve cette possible explication au cœur de plusieurs articles de ce dictionnaire, qu'il s'agisse de guérisons inexpliquées, de placebos, d'apparitions, de visions du futur, de voix enregistrées sans corde vocale, d'expériences aux frontières de la mort, de comportements animal ou végétal, de physique quantique. Comme le disaient les scénaristes de Star Trek, si l'univers est un holodeck, il ne cessera d'exister que si nous cessons de l'observer, de le déchiffrer, de le faire notre. Quant au scarabée, qui vient toquer à la fenêtre pour aider le psychanalyste, il n'a de sens que celui qu'on lui donne. Jung le laisse entrer, Freud l'écrase. Deuxième pause musicale, vous êtes bien sur CFM, dans l'émission Au plus profond des ondes. Finissons donc notre émission avec cette enquête de mort imminente, vous savez, expérience aux frontières de la mort, qu'on appelle des EMI. 60 millions de personnes dans le monde sont concernées par cette querelle de vocabulaire. Comment traduire NDE, Near Death Experience? Comment nommer ce qu'elles ont vécu? Une EMI, expérience de mort imminente? Une EMP, expérience de mort provisoire? Une EFM, expérience aux frontières de la mort? Ou une HCMOC, hallucination causée par le manque d'oxygénation du cerveau? Alors commençons par examiner cette dernière hypothèse. Voilà, purement la thèse chimique. La définition de la mort clinique a beaucoup évolué en moins d'un siècle. Aujourd'hui, on la lie non plus à l'arrêt cardiaque, mais à la cessation de l'activité cérébrale matérialisée par un électroencéphalogramme plat. Bien. Dans le même temps, les nouvelles techniques de réanimation ont permis de récupérer de plus en plus de personnes après quelques secondes ou minutes d'interruption du fonctionnement cardiaque et cérébral. 20% d'entre elles, à peu près, reviennent en racontant qu'elles sont sorties de leur corps, ont fait la fameuse expérience de la revue de vie et de l'entrée dans un tunnel de lumière avec rencontre d'individus décédés, familiers ou non, qui leur ont donné le choix d'aller plus loin ou de rebrousser chemin. On est donc dans le subjectif, dans un délire dû à une décharge de glutamate imitant les effets de la kétamine, un anesthésique hallucinatoire. Ainsi réagirait le cerveau stressé par le manque d'oxygène. Soit, c'est une explication. Mais cet argument s'effondre lorsque les rescapés, rapportant les souvenirs de leur mort clinique, décrivent des détails visibles uniquement du plafond ou du toit de l'hôpital, racontent l'opération à laquelle ils ont assisté dans un bloc voisin, répètent les paroles, voire les pensées du personnel soignant qui s'activait sur eux, ou indiquent les couleurs ambiantes alors qu'ils sont non-voyants. Et là, ça se corse. En 1972, une patiente, Irène Badini, est allée jusqu'à fournir le signalement précis de deux internes qui lui avaient volé ses bijoux pendant qu'elle était en état de coma dépassé. Abasourdis par le témoignage de cet aveugle qu'ils avaient vu piller sa dépouille, les coupables ont avoué leur forfait et on a retrouvé les bijoux à l'endroit qu'Irène avait indiqué. Étrange, non ? Je me contenterai d'ajouter ici deux autres exemples parmi les plus connus et les plus étudiés. En 1983, dans un hôpital de Seattle, le Harborview Medical Center, une ouvrière saisonnière nommée Maria est réanimée après un arrêt cardiaque. Elle raconte alors à son assistante sociale, Kimberly Clark, qu'une chaussure de tennis se trouve sur une fenêtre du troisième étage. Elle est trouée au niveau de l'orteil et le lacet est coincé sous le talon. C'est le souvenir qui l'a le plus marqué, dit-elle, pendant sa sortie de corps. Elle demande à l'assistante sociale d'aller vérifier l'exactitude du détail, pour savoir si son expérience correspond ou non à la réalité. Sceptique, mais pas contrariante, Kimberly se rend donc au troisième étage et ne voit rien dans un premier temps. Puis, en s'écrasant le nez contre une vitre, elle finit par distinguer un bout de ladite tennis, mais sous un angle qui ne permet d'apercevoir ni le trou ni la position du lacet, détails qui seront confirmés lorsqu'on récupérera la chaussure. Conclusion de l'assistance sociale, Marianne avait pu la voir ainsi qu'en flottant devant la façade, les yeux à quelques centimètres de la corniche. De plus en plus étrange. En 1991, Pamela Reynolds, parolière et chanteuse américaine, victime d'un anévrisme géant du tronc basilaire, subit une opération de la dernière chance. On la vide de son sang pour supprimer la pression artérielle et retirer l'anévrisme. Durant une heure, son cerveau n'est plus irrigué. Sous surveillance médicale constante, pendant l'hypothermie censée lui épargner des dommages irréversibles, elle est en état de mort clinique artificiellement provoquée. À son réveil, elle décrira précisément toutes les phases de l'intervention chirurgicale, s'attardant sur des détails qui l'ont amusée, comme le fait que la scie à trépané avec laquelle on lui a ouvert le crâne ressemble à une brosse à dents électrique. Elle aura aussi mémorisé les différentes réactions des médecins, notamment leurs commentaires inquiets sur le trop faible diamètre de ses artères. Elle racontera qu'une lumière l'a ensuite absorbée et que c'était délicieux. Elle ne voulait plus retourner en arrière, alors que son oncle décédé s'efforçait de la convaincre qu'elle avait encore des choses à faire sur Terre, le défibrillateur a remis son cœur en marche. « Retourner dans mon corps, confiera-t-elle, fut comme sauter dans de l'eau glacée. » Ces récits, comme tant d'autres, ont été vérifiés, recoupés, attestés. Et contestés, évidemment. Le magazine Skeptical Inquirer envoyait des enquêteurs, 12 ans après les faits, placer une chaussure de tennis sur une corniche au troisième étage de l'hôpital de Seattle pour vérifier l'hypothèse que Maria avait pu la voir depuis la rue avant sa mort clinique. Dommage qu'ils ne soient pas allés au bout de leur investigation. Pour justifier son observation du trou au niveau de l'orteil et du lacet coincé, ils auraient dû prouver qu'elle était venue en repérage auparavant à l'hôpital, voire qu'elle avait elle-même placé la chaussure sur la corniche, en prévision de son arrêt cardiaque. Tant qu'ils y étaient, pourquoi ne pas soupçonner aussi l'assistance sociale d'avoir organisé toute cette mise en scène ? ils l'ont fait. Quant à Pamela Reynolds, de bons et loyaux sceptiques ont épluché la chronologie de sa longue opération en essayant de démontrer que ses observations et ressentis correspondaient à des moments où elle n'était plus en état de mort clinique. La réponse des rationalistes aux allégations de la littérature survivaliste, c'est donc l'effet yo-yo. Un coup le cerveau non irrigué remarche, avec une acuité parfaite, un coup il se redébranche. Et ces micro-réveils sont si discrets qu'ils n'ont pas d'incidence sur le tracé plat de l'électroencéphalogramme. Les neurochirurgiens à qui j'ai soumis cette explication l'ont trouvée très distrayante. Il est toujours plaisant de voir des rationalistes basculer malgré eux dans le surréalisme. Voilà, vous l'avez compris, ça ne tient pas. Mais quel que soit le sérieux ou les intentions souvent louables de ces ennemis acharnés de la conscience extracérébrale, on est en droit de se demander ce qui les dérange autant. Tous ces témoignages ne seraient-ils pour eux que des mensonges ou des illusions sincères, destinées à démontrer l'existence de l'âme et donc à prouver Dieu? On n'a jamais vu un rescapé de la mort clinique fonder une secte. Ces visions prometteuses de la mort, cette bande-annonce d'un au-delà idyllique, pourraient-elles constituer une dangereuse incitation au suicide? Jamais le cas ne s'est présenté. Au contraire, il suffit d'écouter n'importe lequel de ces témoignages pour éprouver ou retrouver une furieuse envie de vivre. C'est plutôt à la lecture des réfutations laborieusement péremptoires des ultramatérialistes, s'ingéniant à nous prouver que la vie n'est qu'un hasard ponctuel voué au néant, qu'on a parfois envie de se jeter par la fenêtre. Alors, à moins de récuser en bloc les milliers de témoignages, parce qu'il s'agit de milliers de témoignages rapportés par les malades et les médecins, on ne peut en tirer qu'une conclusion. Les informations obtenues par le patient en état de mort clinique ont été mémorisées sur l'instant, analysées, mises en mots. Mais comment? Comment un cerveau hors service? Arrêt cardiaque, absence de circulation sanguine, électroencéphalogramme plat. Pourrait-il traiter des observations extérieures et des sentiments, ou même fabriquer des hallucinations? Un tel cerveau, comme l'écrit le docteur Pim van Lommel, est dans la même situation qu'un ordinateur débranché, avec ses circuits enlevés. Il ne peut pas halluciner. Il ne peut rien faire du tout. Je souligne bien, il ne peut rien faire du tout. Il faut donc supposer le travail d'une conscience délocalisée, ayant pris le relais du cerveau indisponible. Une sorte de disque dur externe qui, tout en sauvegardant la mémoire des données, continuerait à percevoir et générer de l'information, laquelle serait récupérée par le cerveau quand celui-ci, une fois le cœur remis en marche, serait à nouveau en mesure de les traiter. Quelle autre explication rationnelle donner aux innombrables récits de ces observateurs privés d'activité cérébrale au moment où s'effectuent leurs observations? De plus en plus de médecins souscrivent à cette notion de champ informationnel de conscience, extérieur au cerveau. Sommés de présenter des preuves autres que des hypothèses fondées sur des témoignages, ils rappellent que nul n'a jamais non plus prouvé que le cerveau fabriquait de la pensée. On sait comment il la traite et dans quelle zone, mais son origine demeure un mystère. Comme l'a écrit Lommel, le fait que la conscience et la mémoire émergent des fonctions cérébrales reste une supposition non démontrée. De là à comparer le cerveau à un poste de télé recevant des programmes dont il n'est pas l'auteur, lequel programme continue d'exister lorsque le récepteur s'éteint, il n'y a qu'un pas à franchir. Beaucoup l'ont déjà fait. Il est indéniable que depuis la publication aux États-Unis de « La vie après la vie » du docteur Raymond Moody en 1975, l'attitude du corps médical a profondément changé à l'égard de ces EFM. Je retiens finalement ce sigle « expérience aux frontières de la mort », me paraissant l'appellation la plus juste, la plus respectueuse de cette délicate limite entre l'en-deçà et l'au-delà qui varie suivant les époques, les critères scientifiques, les cultures et les religions, s'arc-boutant sur leur a priori, les réfractaires ont, face à l'avalanche de témoignages, démontrant la vision extracorporelle en l'absence d'activité cérébrale, des arguments de plus en plus restreints, du genre « ces gens ne sont pas morts puisqu'ils sont là pour en parler, donc tout cela n'est que spéculation et illusion physico-chimique, point final ». Mais Dans le même temps, un nombre croissant de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmiers osent témoigner, ce qui encourage d'autant ces patients à raconter l'incroyable expérience qu'ils ont vécue. Cardiologue néerlandais Pim van Lommel a publié en 2001 dans la revue médicale The Lancet la plus vaste étude jamais entreprise sur les EFM après un arrêt cardiaque. Sur 344 survivants dans 10 hôpitaux différents, 62 ont rapporté des souvenirs de leur brève mort clinique. 50% d'entre eux ont eu la nette conscience d'être morts. 30% ont vécu l'expérience du tunnel de lumière et d'une rencontre de proches décédés. Et 25% ont effectué une sortie de corps avec mémorisation vérifiable de scènes, des corps, paroles ou même pensées d'autrui. Mais Lommel pose autant de questions qu'il apporte d'informations et il suggère plusieurs réponses. En premier lieu, il nous rappelle qu'il n'est pas indispensable de mourir pour vivre une AFM, du moins une sortie de corps. Sous casque à électrode, une différence de fréquence émise dans chaque oreille peut créer le même effet, en synchronisant les deux hémisphères du cerveau. Suivant le cocktail sonore qu'on lui propose, le sujet accède à un état d'expansion de conscience, de vision extracorporelle, voire de médiumnité. C'est pratiqué couramment en l'Institut Monroe, un lieu de séminaire en Virginie, où des milliers de personnes viennent réduire leur stress, augmenter leur créativité et résoudre leurs problèmes émotionnels grâce à cette technologie brevetée sous le nom EMI-Sync. Voilà donc l'effet, cette petite analyse sur les expériences aux frontières de la mort. Il existe bien sûr des tonnes de documents sur ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs surfer sur le net, c'est très riche à ce niveau-là. Ça fait donc réfléchir sur ce qu'est véritablement l'être humain et notre conscience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Kanane fa kanane maliden kele iene maliden bebarala kanane fa kanane maliden kele iene maliden bebarala mali sumurun bebarala mali jemi semye kamalenye o mali kamalemba Kamalembao, beko mali kamalembao. Ni bankele kananga arime kele kechuye kamalenye. Ni bankele kananga arime kele kechuye kamalenye. Beko sumjata ye kamalenye, sumjata no kanchuye kamalenye. O mali kamalembo Mali denungo, isunjata no kante uye kamalenye. E mali denungo, isunjata no kante uye kamalenye. E mali denungo. Sunjata no kanche uye kamalenye kanane fa kanane malide keleye ne malide mbebarala kanane fa kanane malide keleye ne malide mbebarala mali sungurun mbebarala male je misenye kamalenye Mali kamalemba Mali sumurumbe barala Mali chemise unye kamalenye O Mali kamalemba Nibankele kananga arime kele keche uye kamalenye Nibankele kananga arime kele keche uye kamalenye Beko sumjata ye kamalenye Sumjata no kanche uye kamalenye Umali kamalemba Umali kamalemba Beko umali kamalemba